I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf, je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée. Réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle, et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock, et dites-lui s'il vous a plu, pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire. Mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouver le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre, et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle. Je me dis, est-ce que ton deuxième accouchement, il est aussi cool ?
Il est aussi cool, il est même beaucoup plus cool, parce qu'il vient avec l'énergie de « je l'ai déjà fait ». Bon. Donc, il n'y a pas du tout ce stress, il n'y a pas du tout... Mais je peux raconter plus brièvement, je pense que je peux aller vraiment directement sur les faits. Alors, on a aussi eu une blague pas drôle hein, pour la fin de la grossesse. Et tu vois, je vais au rendez-vous des 38 semaines chez ma sage-femme et je suis à 38 semaines et demie. Et là, je vais la voir en lui disant genre, est-ce que tu veux bien me faire un décollement des membranes? Je sens que ce bébé, il doit venir... etc. Et puis elle me dit, bah non, Véro, là, il n'y a rien qui indique que je te fasse un décollement des membranes. T'es qu'à 10, 38 semaines, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, quoi. Et je suis en mode, non, je sais pas, je sens un truc. Elle me dit, ok, bon, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Tu sais que tu peux me joindre quoi qu'il arrive, voilà. Et à partir de... En gros, ma fille, elle est née le mercredi. Et à partir du samedi, moi, j'ai l'impression que mes culottes sont de plus en plus mouillées. Et je crois que je suis en train de perdre du liquide amniotique. J'en suis même intimement convaincue. Comment ?
Elle n'a pas fait le décollement au final.
Et elle ne m'a pas fait le décollement parce qu'elle me disait, Véro, je ne vais pas te faire un décollement alors que tout va bien chez toi. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Tu es à 38 semaines et demie. Normalement, tu sais bien que chez moi, on va jusqu'à 41 et plus. Elle a accompagné des accouchements accompagnés à la maison qui ont été jusqu'à même 42 plus quelque chose et puis elle n'a rien dit à personne, quoi. Mais donc, elle est un peu... là, elle est en mode, mais Véro, tout va bien chez toi, donc de quoi est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et elle me laisse rentrer à la maison. Et ouais, je te dis, je sens le liquide amniotique qui perle pendant tout le week-end. Le lundi matin, je décide de leur envoyer un message parce que l'inquiétude monte en fait en moi. Et je suis en mode, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je l'ai au téléphone. Elle est justement avec sa doula, avec du coup notre doula, parce qu'elle va devenir aussi ma doula par la suite. Mais elle est justement en intervention parce qu'elle fait un accouchement à ce moment-là. Et là, toutes les deux, elles me disent de me connecter à ce bébé, de comprendre ce qui se passe, etc. Et je suis en mode, non, le liquide amniotique, la poche, elle est, je suis sûre, je suis certaine, elle est perlée, quoi. Elle est percée et il se passe un truc. Elle me dit, OK, on va voir, mais on se donne 72 heures, comme si on était à la maternité.
D'accord.
Donc, on a 72 heures pour faire venir le bébé, si toutefois, il y a réellement une poche des os qui est percée. Le mardi soir, on va la voir. Et elle nous fait un test, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour voir si le liquide amniotique, effectivement, est présent dans mon vagin. Et là, je lui dis, écoute, pour moi, il va revenir négatif parce que ça fait plus ou moins 2 heures qu'il n'est pas, qu'il n'y a pas eu d'écoulement, rien, quoi. Donc, elle fait le test, elle dit, ouais, mais au moins, dans moi, dans mes papiers, le test, il est négatif. Et ça, c'est important, Véro. Je dis, d'accord, je comprends, pas de souci. Donc, effectivement, là, le test, c'est négatif, etc. Mais elle sent bien, c'est quelqu'un qui fonctionne au feeling. Et clairement, je lui indique tout que il faut qu'il naisse ce bébé. Genre, vraiment, même moi, je le sentais. C'est en mode, non, ce bébé doit naître. Je veux qu'il naisse. Là, c'est important. C'est pas que j'en ai marre. C'est vraiment, il doit naître. Il faut qu'il naisse. Elle me dit, OK, d'accord, pas de souci. Donc là, je lui dis, est-ce que tu peux me faire un décollement des membranes? Je suis à 39 plus 2, du coup, je crois. Ou 4? 39 plus 4, ouais. Et elle accepte. Sous le fait que justement il y avait une grosse suspicion de fissure de la poche des os, que ce qu'on veut pas, c'est qu'en fait on ferme les yeux sur le fait qu'il y avait une fissure de la poche des os et en fait ça signifie qu'il y a une infection. Donc ça, ce serait problématique pour l'enfant surtout. Donc on décide de faire le décollement des membranes et je pars marcher, mais là je te dis pas, j'étais en train de courir. Je courais à 39 plus 3 avec un décollement des membranes qui venait juste de se faire et j'étais en mode non, je dois accoucher cette nuit. En revenant à la maison, tu sais, j'ai un tapis de marche. Je commence à mettre sur le tapis de marche. J'ai déjà des contractions depuis qu'on est dans la voiture. Donc, ça faisait plus d'une heure que j'avais des contractions. Et je t'en mets, non, je veux pas que ce travail s'arrête. Donc là, je vais marcher. Donc, je me mets sur le tapis de marche. Chaque contraction, je m'arrête. J'assume la contraction. Je repars. Je marche. Machin, machin, machin. Et je suis en mode, c'est mort. Je dois accoucher aujourd'hui. J'avais ce sentiment de dingue que c'est aujourd'hui qu'il faut que j'accouche. Et là, le travail se met clairement en route. Et là, c'est vraiment l'extase de savoir ce qui va se passer. Parce que mon mec était d'un calme olympien. Il était à côté de moi. Il m'observait. Il disait rien. Tu sais, c'était pas en mode, il se mettait à côté de moi, il jouait à un jeu pendant que moi, j'avais des contractions. Il était à côté de moi, il me regardait. Puis comme c'était la nuit, ben en fait, il dormait par moments. Mais alors que lui, il dort jamais à 21h, 22h, il dort jamais, tu vois. Là, il s'est mis à dormir par moments, mais ça me signalait aussi de repose-toi. Prends le temps de vivre ces contractions. Donc, on a passé une grande partie de la nuit, en fait, à enchaîner les siestes. On se reposait, puis on repartait sur des contractions. On se reposait, on partait sur des contractions. Et je crois qu'on a appelé... Ouais, vers 2h du matin, c'est ça. Je dis, ouais, j'aimerais quand même bien la piscine. Parce que là, ça commençait à être sérieux. Tu vois, là, on sort du pré-travail, on est vraiment sur le travail actif. Et je dis, bah, je veux bien je sentais bien que ça s'ouvrait à l'intérieur de moi, si tu veux. Donc là, on va dans la piscine. Il m'installe la piscine. Là, pour le coup, on était rodés. Il l'installe à deux-deux. Il a quand même réussi à la casser, ce génie. Mais donc, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, on a réussi à finir cet accouchement avec la piscine, alors que clairement, la piscine, à tout moment, manquait de se vider entièrement de son eau. Donc,
Dans le salon.
on est plus en fondation, quoi. Mais ça s'est bien passé finalement. Donc, bref, on est descendu à 2h du matin et là, on n'est rien qu'à deux. C'est le silence de la nuit. On enchaînait les contractions, le calme, les câlins, les bisous. Et on était là, on fait des prédictions. On se dit, ouais, on va appeler la sage-femme au dernier moment. Elle viendra vraiment, le bébé, il sera quasiment là. Ça va être trop bien et tout. Et elle va naître à 8h. Et on se dit, à 8h, elle est là. Donc, c'est vraiment comme on s'est mis une deadline, tu vois, c'est important pour nous.
Ouais, okay. Et parce que là, t'as dit quoi? Il est 2 heures du matin là?
Ouais, il est 2h du matin.
Et vous vous dites à 8 heures
Donc, ouais, on s'est dit à 8h du matin, elle va être là. Enfin, il va être là, le bébé, parce qu'on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon pour le coup.
Meilleure surprise.
Meilleure surprise de ouf, grave. Donc du coup, bah, ça s'enchaîne. Et puis, à 4 h du matin, je sens que j'ai besoin de la sage-femme. Je suis en mode, non, faut que tu l'appelles. Je suis désolée, mon cœur, faut que tu l'appelles. Donc on appelle la sage-femme, elle décide de se mettre en route. Je crois qu'il est 5 h du matin. Non, il est 5 h du matin quand on l'appelle. Et elle arrive, il est 6 h du matin du coup, parce qu'elle a 1 heure de route. Donc sa doula et puis elle arrive à 6 h du matin. Et je sais pas, j'ai un sentiment. En fait, je mets souvent ma main et par contre, je n'ai pas cette même sensation du crâne comme j'avais pour ma première. Et ça m'embête parce que je sens pas le crâne derrière. Et ça me gêne vraiment. Et je sens quelque chose, mais c'est pas un crâne. Je suis emmerdée, ça me gêne. J'ai toujours pas ma poche des os qui s'est rompue. Et là, je lui demande est-ce qu'elle peut aller voir? Elle me dit ok, pas de souci. Je lui demande à combien je suis de centimètres. Et clairement, là, pour le coup, même technique de ma part, je regarde un petit peu comment elle réagit avec les autres. Et là, je vois un regard avec la doula. Et clairement, je vois un regard de on est là pour encore longtemps.
Ah putain.
Et je suis en mode oula, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et
Terrible.
je lui dis je suis à combien de centimètres? Elle me dit non, mais Véro, c'est bien, continue, t'es sur ton chemin, ton bébé, il arrive. Je dis non, 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 je veux savoir. Elle me dit non, mais tout va bien, mais tout va bien. Hop. Donc la doula et elle s'échangent des regards et puis je suis en mode non mais écoute là faut que tu me dises où est-ce qu'on en est là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis elle me dit bon écoute je vais te le dire Véro, voilà je pense que t'es à 3-4 cm. Je suis à quoi? Non c'est impossible. L'intensité elle est telle, c'est pas possible. Là le bébé il doit arriver là, c'est pas possible. Et je comprends pas ce que je ressens quand je mets les doigts, je lui explique que je comprends pas ce qui se passe et tout. Et puis là elle me dit ce que tu sens c'est la poche des os. Et en fait, ton bébé, il est vraiment bien emballé dans une poche des os bien remplie. Et à ton premier accouchement, comme t'as, bah, j'ai oublié de le préciser dans mon récit, mais bon, très rapidement, j'ai perdu les os. Donc en fait, j'ai vite aussi eu cette protection-là en moins.
Et puis à l'échographie, elle t'avait dit, ah, de toute façon, il n'y en a plus. Donc en vrai, il devait peut-être plus en rester beaucoup de toute façon, quoi. Alors que là, potentiellement, il t'en reste plus.
Exactement, bah là il m'en restait vraiment beaucoup en fait, vraiment beaucoup. J'avais un bon ventre rond, bien engagé, enfin vraiment on sent qu'il y avait du liquide amniotique pour cette deuxième grossesse, il en restait vraiment jusqu'à la fin. Et là je pète un câble parce que je ressens que c'est ça qui m'empêche d'accoucher. Et c'est hyper frustrant. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que je commence à gratter cette poche. Quand je mets mes mains, j'essaye de gratter la poche. Non, je te jure, c'était instinctif de ouf. Et je crois qu'elle capte un peu que je fais ça, genre c'est un peu flou, mais je sens qu'il y a des regards qui s'échangent et tout, genre qu'est-ce qu'elle fait et tout, mais en fait j'étais en train d'essayer de... Ça
L'appel.
m'énervait, je te dis. C'était hyper fort, quoi, comme sentiment de... En fait, je veux accoucher, là, les gars, je veux que ça sorte, enfin, je sais qu'il faut que ça sorte, quoi. Et donc là, elle me dit, est-ce que tu veux que je perce la poche des os? Et j'étais en mode, oui, s'il te plaît, fais-le tout de suite. Et elle était là comme... Elle n'était pas sûre encore que je voulais vraiment percer la poche des os. Donc elle attend plusieurs contractions. En fait, il se passe 30 minutes de plus. Et là, je la regarde et je dis, pourquoi tu perces pas la poche des os? Puis elle fait, ben écoute, t'es sûre? Et puis je dis, genre, mais je t'attends là, genre, pète-moi cette poche, ça te fait chier. Et elle fait, ok, ça marche, Véro, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc elle va chercher son matériel pour faire ça. Il faut savoir que le gros risque quand on perce la poche des os, c'est la procidence de cordon. C'est quand le cordon en fait sort à la place du crâne du bébé. Et donc ce qu'on veut pas, c'est que le cordon ombilical s'engage alors que la tête. Donc une fois qu'elle a percé la poche des os, c'est très important, mais elle garde sa main à l'intérieur pour s'assurer que le cordon vient pas.
Okay.
Donc elle perce la poche des os, le bébé s'engage bien. Mais en 2 secondes, quand je te dis en 2 secondes, c'est en 2 secondes. Donc là, je lui dis, là, je suis à combien? Elle me fait là, Véro, t'es à 8. Alors qu'il y a 2 secondes, j'étais à 4, tu vois, genre 3-4. Et là, je dis, t'inquiète et tout. Je suis en mode, vas-y, je me détends un peu. Je fais une sieste. J'ai plus du tout de contraction, mais vraiment, genre sieste 5 minutes, là, tranquille. Vraiment, la petite pause. Et là, je fais, oi, 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 ça vient, ça vient. Et là, genre, je hurle, mais je hurle. Et là, je ressens une douleur que j'ai pas du tout eue avec ma première. Mais là, je fais, oh putain, ça va pas du tout. Là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas du tout. Et je hurle encore. Les contractions s'enchaînent. Mais genre, là, j'avais même pas le temps de respirer. C'était vraiment la contraction se terminait. J'étais en mode, je vais pouvoir me. Non, j'ai pas le temps de me reposer. Ça y est, ça repart. Et je suis en mode, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et genre, c'était inarrêtable. Et là, genre, je croyais que ma sage-femme, elle avait encore la main dans mon vagin, alors que pas du tout. C'était la tête de mon bébé. Donc, une fois que le cordon était effectivement bien pas engagé du tout, elle a retiré sa main. Mais en fait, ce que je ressentais, c'était la tête de mon bébé. Mais dans ma tête, à moi, c'était que c'était sa main qui était toujours là. Et donc, je lui hurle dessus en pensant que c'était elle. Et je dis, arrête! Arrête, je vais me déchirer en deux! Arrête! Et là, genre, je sens un gros plop, mais un truc de ouf, genre, en un coup, je me vide! Et alors, c'est marrant parce qu'elle ne dit rien du tout, parce qu'en fait, elle sait très bien ce qui est en train de se passer. Et là, genre, plus rien. Genre, rien du tout. Plus de sensation de mal, plus rien du tout. Et là, je regarde entre mes jambes, je vois un bébé entier. Non, mais entier, quoi. Et je regarde, on était dans la piscine, j'ai oublié de le préciser, mais on est dans la piscine à ce moment-là. Hein. Donc le bébé, il est sorti, mais comme une fusée, quoi.
Incroyable.
Entre le moment où elle perce la poche des os et le moment où le bébé est sorti, il y a littéralement maximum 20 minutes. Rien du tout, quoi.
Incroyable.
Donc, pour le récit, il y a clairement possibilité de passer de 4 à 10 en rien de temps, quoi.
Ah oui, non, mais c'est
Et
sûr.
en fait, elle a juste, à un moment donné, on voit sur la vidéo, elle a juste sa main qui retient la tête de mon bébé parce qu'elle voit bien que c'est ce qu'on appelle un réflexe d'éjection, je ne sais plus comment ça s'appelle, fœtal, ou je ne sais plus comment on dit, mais bon, bref, c'est quand tu as le bébé qui s'expulse, mais de façon vraiment, c'est une fusée, quoi. Et en fait, c'est ça, d'un coup, il sort, donc il n'y a même pas d'étape, c'est même pas la tête, puis le machin, c'est d'un coup, tout sort. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que il faut pas, ce qu'il faut éviter, c'est que le périnée s'explose, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une déchirure qui se passe parce que tout sort d'un coup. Donc, en fait, elle retient la chute de mon.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le bébé, elle le retient un tout petit peu au début, puis après, fiou, elle le laisse passer. Alors, c'est trop drôle, sur la vidéo, elle me regarde, moi, en vérifiant que j'ai bien vu que ce bébé était né, en fait. Et effectivement, après, je regarde entre mes jambes, je vois ce bébé, je fais « Oh putain, truc de ouf! Le bébé, il est là! » Et genre, ça n'a pas de sens! Pourquoi ce bébé, il est là? Genre, il y a 10 secondes, j'étais à 4, je me préparais à faire la bagarre, et non, en fait, il est là, ce bébé! Je suis en mode « What? » Et là, je le prends sur moi et je suis en mode, mais c'est pas possible. Et là, je dis à mon mec la chose la plus fausse et le plus gros mensonge. Alors, je regarde et je fais, comment ça a pu arriver si vite? Il était là, genre, ça fait 12 heures que t'es en travail, meuf. Et je suis en mode, c'est vrai que je mens. C'était pas si rapide que ça. Et ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette expulsion, elle a été si rapide, quoi. C'était vraiment. Et là, bah, pareil, c'était magnifique. Et en fait, il se trouvait que ma fille, là, pour le coup, elle avait tellement un cordon qui était tellement court que je pouvais même pas la prendre contre moi pour me lever et tout. Donc, j'ai dû la garder au niveau. C'était un peu bizarre, mais quand je me suis levée pour aller dans le canapé, le cordon était si court que j'étais obligée de la tenir en même temps, enfin, pliée pour pas qu'elle tombe, parce qu'en fait, le cordon était vraiment, vraiment très, très court. Et donc, ma sage-femme me dit, bah, ce qui s'est probablement passé, c'est qu'elle n'arrivait pas à pousser à cause de l'eau, comme elle restait un peu en surface, elle n'arrivait pas à bien s'engager dans ton vagin, ce qui explique que quand on a percé la poche des os, en fait, il y a plein d'espace qui a disparu, donc elle a pu s'engager correctement dans mon vagin, quoi. Et elle a pleuré très vite. Et donc, quand elle a pleuré très vite, ils disent souvent qu'ils se mettent à pleurer dès le moment où le placenta se décolle. Et ben, elle a pleuré hyper vite, quoi. Parce que le placenta, il a dû forcément sortir directement, même quasiment en même temps que elle, quoi.
Oh, incroyable.
Alors, ouais.
Et attends, j'ai un truc qui me vient. Donc, est-ce qu'au final, ça a été confirmé, cette intuition que tu avais qu'il fallait que ton bébé naisse? effectivement, quand elle est née, on s'est dit, ah, ou juste, en fait, pas particulièrement, et c'est simplement, ça s'est passé
En
comme
fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais une infection. Et c'est pour ça que la poche des os, elle s'est fissurée. Et j'ai faisais une infection, et l'intuition, elle venait sans doute du fait que j'étais en train de faire une infection qui était potentiellement mortelle pour le bébé, en fait. Et du coup, ben, j'ai accouché de ce bébé. Enfin, je l'ai sorti, donc ça veut dire que je l'ai plus exposé à ce microbe. Et quand elle est née, après, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais en fait, probablement que oui, j'ai évité l'infection pour mon bébé. Donc,
Et ça...
oui, j'avais choisi une infection. On a fait un ECBU le jour de la naissance de mon bébé, donc effectivement, oui, je faisais une belle infection.
Hyper intéressant. Non, mais comme quoi, c'est vraiment le ressenti de la mère, quoi, qu'il faut beaucoup plus prendre en compte.
Ah oui, ça, moi j'en ai toujours été convaincue, mais là, en fait, dans les deux naissances, je ressens vraiment ce truc de s'il y a quelque chose qui est connecté à ton bébé, que tu ressens que ça va, que t'es pas stressé, faut pas te laisser engager par d'autres personnes. Alors après, parfois, on n'est pas déjà à la base connecté à soi. Moi, je me ressens quand même comme étant quelqu'un qui se connecte facilement à moi-même, et j'écoute beaucoup mes ressentis, mes intuitions. Je suis vraiment quelqu'un qui se laisse mener par mes intuitions. Du coup, ça me semblait pas bizarre de le faire pendant ma grossesse aussi. Et tu vois, ce truc de j'avais besoin que le bébé sorte, genre, je l'ai vraiment ressenti fort. Et effectivement, ma fille, quand elle est née, dès la naissance, elle était un peu malade, quoi. Enfin, tu vois, elle avait une infection, et elle a eu du mal à prendre du poids. Enfin, on a eu un peu, voilà, je vais pas parler de cette histoire-là parce que c'est pas tant la naissance de ce bébé, mais en tout cas, je veux dire, cette intuition-là, je pense qu'elle était 100% légitime. Et même cette intuition de vouloir percer ma propre porte des os, ça n'avait pas de sens, mais je le sentais comme, ah, il faut que je le fasse, quoi. Je le sentais.
C'est incroyable. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Et à la fois, enfin, ça fait tellement de sens. Enfin, personne ne ferait ça jamais, sauf effectivement si tu ressens le besoin. Enfin, toi, tu as ressenti le besoin qu'il fallait que cette poche des os, elle dégage, quoi. Et du coup, tu étais en train de le faire. Je trouve ça tellement criant de, tu vois, de vérité et de réalité. La réalité, c'était ça. Il fallait que cette poche, elle soit percée. Et moi qui suis, tu vois, anti-intervention et tout, vraiment anti-médicalisation et tout, là, il s'agit pas de ça. Il s'agit pas d'intervention. C'est simplement toi, dans ton instinct, tu savais que il fallait que quelque chose se passe. Tout comme tu savais qu'il fallait déclencher ton accouchement avec le décollement des membranes. Et ça n'a rien à voir avec une sage-femme qui te fait une écho, qui dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» alors que toi, tu es intimement convaincu que tout va bien. Enfin, tu vois, et vraiment faire un distinguo entre ces deux trucs-là. Et je trouve ça, mais tellement puissant ce que tu racontes.
Mais c'est pour ça que j'avais aussi envie d'expliquer un peu plus ces histoires-là, les deux histoires de naissance de mes filles, parce que dans les deux cas, j'ai eu l'intervention de la part de ma sage-femme, mais c'est toujours resté dans la limite de moi, ce que j'étais OK, moi, ce que j'avais prévu, moi, ce que je me sentais informée, je me sentais guidée. Et tu sais, je vais te dire, pendant un court instant après la naissance de ma deuxième, j'avais un peu ce grand regret de dire, putain, je l'aurais pas fait, j'aurais pas accouché jusqu'au bout toute seule chez moi à la maison. En mode presque sans qu'il y ait personne, quoi. Et j'avais un peu ce truc de putain, je suis nulle, j'ai même pas réussi à faire ça. Et je me suis dit non, mais si, j'y suis arrivée 100% parce que c'est moi qui ai dit à la sage-femme, fais ci, c'est moi qui lui ai dit, j'ai besoin de toi pour ça, pour ça, pour ça. Et tu sais, je veux dire, comme je te disais, dans sa pratique à elle, cette sage-femme, en 3 ans, elle a évolué de fou. Et à la fin, elle était vraiment sur, je veux pas du tout intervenir. Enfin, c'était vraiment hyper important pour elle d'intervenir le moins possible. Et je voyais bien que quand je lui demandais de faire des trucs, elle n'était pas 100% convaincue que c'était utile. Est-ce que vraiment on a besoin de cette intervention? Est-ce que ça, ce machin? Je sentais dans son attitude qu'elle était en mode, mais Véro, j'ai pas envie d'intervenir dans un processus naturel. À la fin, je l'ai regardée, je l'ai prise en tête à tête avant qu'elle parte. Et je lui ai dit, merci de m'avoir écoutée. Merci parce que c'est ça qui compte. Et c'est ça qui compte parce que si tu n'avais pas fait ces choses-là, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, finalement, j'aurais eu l'impression que tu m'aurais pas entendue, tu m'aurais pas comprise dans ce que moi j'avais besoin de mettre en place. Et je pense qu'il y a une grande différence entre j'en ai marre d'être enceinte, pitié, faites sortir ce bébé, et il y a quelque chose qui me tracasse.
Bien
Et
sûr.
c'est deux sentiments qui sont complètement différents pour avoir vécu les deux. Parce qu'à la fin de la grossesse de ma première, j'ai passé des heures à chialer en me disant, allez, je veux que ça sorte, j'en ai marre d'être enceinte, c'est chiant. Et c'était une sensation qui était vraiment légitime, je trouve. Mais dans la deuxième fois, c'était pas pareil. C'était en mode, non, je me sens pas bien, il faut que ce bébé sorte, il y a quelque chose qui va pas. Je me sens pas, voilà, je me sens pas complètement sereine et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette en place, quoi, vraiment.
C'est passionnant, franchement, et je trouve que c'est tellement important parce que, enfin, moi, par exemple, j'étais pas du tout connectée à moi pendant mes grossesses, à mon bébé ou à mes ressentis, enfin, surtout pendant la première. La deuxième, j'avais décidé d'accoucher toute seule, donc de fait, en fait, je laissais simplement plus rien interférer avec ce que je pouvais ressentir. Enfin, voilà, les échographes, les maternités pouvaient me dire ce qu'ils voulaient. Je dis oui. Enfin, non, c'est pas vrai, je pleurais un peu. Tu sais, quand tu dois faire
Ouais.
ou anesthésiste et qui m'avait dit je vous donnerai pas l'autorisation pour accoucher chez vous, ben, je dis, ben, évidemment j'étais sortie en larmes de mais
Ça
qui
tombe bien, personne te la demande.
je te jure, mais qui c'est ce type pour qui il se prend, enfin, tu sais, c'est à moitié de la rage, à moitié de la colère, à moitié de la tristesse de pourquoi est-ce que juste on me soutient pas, vous me saoulez vous là putain tous. Et mais donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui est, c'est une notion qui est pas simple parce que par exemple pendant ma première grossesse j'aurais pas su, tu vois, tu m'aurais dit il faut te connecter à toi et ton bébé. Moi, je trouve qu'il y a rien de, il y a rien de perché à ça. Et c'est pas te connecter à ton intuition, à ton féminin sacré. C'est pas du tout ça. C'est juste t'écouter toi, en fait. Mais moi, pendant ma première grossesse, j'étais complètement déconnectée de ça parce que, eh ben, j'avais été sociabilisée dans le truc de la seule personne qui sait, c'est le médecin. Et toi, il ne faut pas t'écouter parce que toi, de toute façon, ton corps, il est défaillant et de toute façon, il va te dire n'importe quoi et de toute façon, tu vois, il y aura un problème quelque part. Donc, pour moi, c'était même pas possible, en fait, de créer ce lien. Et donc, bon, quelqu'un qui serait dans cette configuration-là, je sais pas si elle pourrait se dire, ah oui, ok, je peux réussir à prendre le recul là maintenant pour me dire, effectivement, moi, je pense que je vais bien, je sens que mon bébé va bien, donc je vais arrêter d'écouter tout ce qu'on peut me dire. Et après, pour ma deuxième grossesse, donc j'ai eu un premier accouchement horrible. Et pour ma deuxième grossesse, j'ai décidé d'être toute seule. Et c'est vrai que je sentais bien que tout allait bien aller et que tout allait bien et qu'il n'y avait aucune raison de se stresser de quoi ou qu'est-ce. Mais je trouve que c'est, je trouve que c'est vachement délicat. Parce que comment tu atteins ce truc-là, en fait, si tu ne l'as pas? Parce que tu vois, c'est ce que tu disais un peu. Toi, tu as toujours été comme ça, à te faire confiance, en fait, à faire confiance à tes ressentis et à ton corps. Et en fait, tu as gardé ce truc-là pour tes grossesses. Comment tu fais quand tu n'as pas ça à la base? Je trouve que c'est un peu.
Pour moi, ça rentre dans ma pratique, ce que j'explique aux personnes quand je leur parle de s'écouter. Je leur parle de s'écouter de la même manière que tu t'écoutes quand tu dis, ah, j'irais bien aux toilettes là, je sens que mon corps il m'indique et tu dois aller faire pipi. Et tu dois aller aux toilettes. Et tu dois manger, tu dois boire. Tout ça, c'est des signaux, ça s'appelle aussi s'écouter. Et alors, effectivement, on n'est pas en train de chercher le féminin sacré, l'énergie, la sagesse, tout ce que tu veux, comment tu veux l'appeler, parce que ça, je pense que c'est ça s'atteint, hein, mais voilà, c'est du spiritualisme, c'est autre chose. Mais je parle vraiment dans la grossesse, c'est vraiment pour moi, c'est la connexion à soi, mais de la même manière que tu te connectes à ton bébé qui t'envoie des signaux très clairs de quand j'ai faim, j'aimerais bien un câlin, j'ai froid. Et quand tu passes un peu outre l'idée qu'effectivement c'est à quelqu'un d'autre que toi, parce que tu le dis clairement, de savoir si oui ou non ton bébé il a faim, ou oui ou non tu as besoin de faire ci ou ça avec ton corps, c'est avant tout juste d'écouter quelle est la première pensée qui te vient quand ton problème se présente à toi. Moi, par exemple, à la fin, c'était mon problème. C'est j'ai une fuite, je sens bien que ma poche des os, elle est fracturée, elle est fissurée. Et la première solution qui me venait, c'est il faut que ce bébé sorte. Ben alors, on fait sortir le bébé. Fin de la discussion, en fait. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui sont dans des états avec des années et des années de patriarcat derrière elles, avec des années et des années de personnes qui pensent mieux qu'elles, qui sont mieux qu'elles, etc. Et qui vont même pas atteindre la capacité de dire, ben là, je dois aller aux toilettes, ou là, je dois aller. Voilà, qui sont déjà dépassés par leur sentiment de satiété aussi, qui ont déjà perdu cette connexion à soi de juste, j'ai plus faim, j'ai faim, faudrait que je mange, faudrait que je boive. Mais déjà, ça, il y a des personnes, elles ont même plus cette connexion à elles-mêmes à ce niveau-là. Donc, évidemment, qu'à cette personne-là, c'est difficile de les accompagner. Et moi, je n'ai pas la solution à tout. Et la seule solution que j'ai trouvée personnellement, vraiment, c'est voilà, la thérapie, d'en parler aux gens, de se rendre compte qu'il y a un problème parfois aussi. de déconnexion.
Ouais.
Mais effectivement, à la base, sans aller chercher dans du grand spiritualisme, c'est juste se dire qu'est-ce que tu ressens, quelle est ta première pensée. Et tu vois, des personnes comme ma sage-femme, quand elles accompagnent, bah, elles posent la première question, c'est comment tu te sens? Comment ça va? Qu'est-ce que tu as envie de me partager? Qu'est-ce que tu as envie de lâcher là, aujourd'hui, tout de suite? Et elle écoute. Et elle écoute, c'est surtout ça. Parce que si tu n'écoutes pas à la fin, ben en fait, ça ne sert à rien que je me fasse. Tu vois, je veux dire, quand je faisais les entretiens obligatoires en maternité qui duraient 7 minutes compteur chrono et qu'en même temps, elle arrivait à passer deux coups de téléphone, à se faire appeler trois fois et à te dire à la semaine prochaine alors que tu n'as même pas rendez-vous la semaine prochaine. Enfin bref, tu es en mode, OK, tu sais même pas qui je suis en fait. Tu sais pas, tu ne me connais pas, tu cherches même pas à me comprendre ni à me connaître. Et voilà, je me suis faite regarder de travers parce que j'ai dit que je voulais pas faire un test ECBU. Elle voulait que je m'assoie sur son siège et qu'elle voulait me mettre le petit coton-tige dans le vagin. Et je lui dis, bah non, c'est gentil, mais je sais le faire. Je sais mettre un coton-tige dans mon vagin, je suis quand même pas complètement délurée, quoi. Ben, j'ai deux mains, voilà, ça va le faire. Elle m'a regardée comme si j'étais mais en train de lui expliquer son métier, qu'elle avait tort. Et puis 2 secondes après, très indélicate comme elle est, elle sait dans mon dossier, il était marqué de par ma première grossesse que j'avais été victime de violences sexuelles. Et elle me l'a ressorti, but en blanc. Ah, c'est parce que ça vous est arrivé. Ah, c'est pour ça. Et dingue, parce que j'y pensais même pas à ce moment-là. J'étais juste en mode, je vais mettre un coton-tige dans le vagin, je sais le faire. Et là, elle me sort ça, et en fait, elle ne se rend pas compte qu'au moment où elle l'évoque, en fait, moi, je suis obligée d'être projetée dans ce souvenir qui m'est arrivé, et de tout ce qui en a suivi, de tout ce que ça m'a amené dans ma vie. Et là, je me dis, mais quelle insensibilité, mais quelle, franchement, quelle connasse, quoi. T'es qui, au juste?
Mais
Pour
c'est
qui tu te prends? Et
ça.
là, je me suis dit, mais quelle insensibilité au problème qu'on a, quoi.
Mais c'est clair. Et quand tu oses soulever ce problème du manque d'humanité ou de psychologie dans leur rapport avec nous, enfin, quand je dis leur rapport, c'est un peu au global. Bien sûr qu'il y a des soignants et des soignantes qui sont géniaux, hein, c'est pas le point, mais quand même, dans la grande globalité, il y a quand même beaucoup de problématiques. Quand tu soulèves ce problème-là, ils te disent, mais c'est pas du tout, c'est au programme de nos cours, la psychologie avec les patients et tout. Bah, je sais pas. Soit c'est des cours, soit il y en a très peu, soit c'est complètement. Ça dépend vraiment de la personnalité du soignant, mais auquel cas, bah, je sais pas, vous peut-être dire, bah, en fait, vous n'allez peut-être pas être soignant parce que bah, vous n'avez pas clairement les capacités pour l'être. Enfin, je sais pas, mais il y a un manquement quelque part. Et quand tu leur fais, quand tu soulignes le fait qu'il y a une problématique, ils s'en foutent, quoi. Ils ne sont pas concernés, enfin, c'est alors que c'est dramatique.
Oui. Roxane, je vais devoir te laisser parce que j'ai un rendez-vous.
C'était génial. Franchement, Véronique, j'ai adoré. C'était beaucoup trop cool. Alors, regarde, j'arrête l'enregistrement maintenant.
D'accord.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.